Chers auditeurs, pour revenir sur la conférence « L'élargissement a-t-il fragilisé l'Europe ?», nous recevons Pierre Manant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes normalien, agrégé de philosophie. Vous avez été l'assistant de Raymond Aron au Collège de France et vous avez participé à la création de la revue Commentaires en 1978. Et vous êtes, depuis 1992, directeur d'études à l'EHESS. Et nous allons donc revenir avec vous sur les questions de politique européenne.
Alors, la politique européenne, elle a, pour nos générations, deux dates extrêmement importantes. C'est, je dirais, les procès de Nuremberg ou l'époque où ce qui s'est passé sous l'Allemagne nazie a été découvert par tous les Européens. Aujourd'hui, la connaissance porte jusqu'aux frontières de l'Ukraine et de la Biélorussie. Des livres importants sont parus, un livre américain intitulé Bloodlands, qui porte sur les massacres qui n'ont pas été évoqués à Nuremberg, mais qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale ou qui se sont poursuivis jusque dans les années ultérieures. Et puis la deuxième date, évidemment, c'est 1989, la réouverture de toutes les communications entre Européens. Entre ces deux dates, l'Europe a été marquée par une très forte empreinte idéologique. Elle a été multiple, mais elle a été surtout très controversée. Ces empreintes idéologiques ont été apparemment balayées par l'empire économique, l'empire libéral, qui aurait recouvert de sa vérité nouvelle, d'anciens clivages devenus erreurs. L'Europe est aujourd'hui en butte à des difficultés de gouvernance, comme on dit, liées à la faillite de certains modèles de croissance, et l'on se demande si nous ne sommes pas dans un vide idéologique qui est propice soit à l'expression des extrémismes, soit à un relativisme qui s'accommode de multiples formes d'addiction à la consommation, d'addiction aux médias, de recherche d'identité par des fondamentalismes ou des idéologies de la mémoire. Et j'aurais voulu vraiment avoir votre sentiment d'Européen sur l'évolution des idées que les Européens se font sur eux-mêmes, sachant qu'ils ne croient plus à ce qui avait pu être des modèles de développement des 40 ou 50 dernières années.
Immense question. Si j'essaie de cerner le point qui me paraît le plus important, c'est que on peut dire, me semble-t-il, que le progressisme, en prenant cette expression en un sens non politique, mais au sens le plus large, le progressisme a cessé d'être, comment dire, la musique accompagnatrice de la vie européenne. Parce que sous des versions différentes, libérales, socialistes, technologiques, politiques, il y avait tout de même l'idée, depuis au moins peut-être le début du XVIe siècle, que nous étions sur un vecteur ascensionnel, en quelque sorte. Et puis, cette certitude a été profondément blessée par les événements que vous avez évoqué, par les guerres dévastatrices, par les massacres et par les exterminations. Et aujourd'hui, après en quelque sorte cette blessure intime que l'Europe ne sait comment guérir et d'abord ne sait comment comprendre, il y a, si j'ose dire, une limite extérieure qui est le sentiment que le modèle de développement européen ou occidental va contre un mur. Donc, de tous côtés, en quelque sorte, et à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur, nous rencontrons les limites de nos espérances traditionnelles, de celles qui nous avaient portées depuis des siècles. Donc, ce que je vois devant les Européens, c'est un effort intense, profond, sérieux, sincère, pour redonner sens à leur aventure. Voilà. Je crois que certains ont des projets de réforme de ceci ou de cela, suggèrent des chemins politiques vers ceci ou cela. Alors, comme tout le monde, j'ai mes préférences ou mes certaines manières d'imaginer un avenir désirable. Mais je crois que d'abord, nous avons une interrogation sur l'aventure européenne ou l'aventure occidentale, et une interrogation qui nous conduit à considérer la place de la philosophie dans la définition de l'Europe et dans l'aventure européenne, la place de la religion ou des religions, et en particulier le rapport entre le judaïsme et le christianisme dans l'histoire européenne. Bref, ce sont, pour nous comprendre nous-mêmes, aujourd'hui, nous devons réinvestir les questions radicales qui portent, encore une fois, sur la philosophie, sur la religion, sur l'ordre politique dans ce qu'il a de plus fondamental. Pour moi, la situation nous appelle à ce type de réflexion.
Alors nous serons sans doute quelques-uns à partager cette conviction, mais un certain Husserl disait dès les années 30 qu'il était sur ce point sans doute trop tard, et l'actuelle exposition des archives de Walter Benjamin au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris ces temps-ci est aussi un mémorial pathétique de l'impuissance des citoyens européens à protéger leur lumière et à avoir mis au centre cette inquiétude philosophique. Il semble que les Européens d'aujourd'hui soient beaucoup plus friands de consensus facilement acquis sur les opinions qu'on peut se faire au propos de la consommation, du développement durable ou des relations avec les Chinois ou les Américains, que d'approfondir leur propre musique, d'approfondir leur propre recherche et leur propre base de réflexion. Je ne sais pas si nous avons la possibilité d'aller très loin dans cette recherche d'un consensus européen, qu'en plus, la fracture des langues, difficile à surmonter, sauf par un anglais qui n'est pas une langue de véritable approfondissement intellectuel, semble éloignée d'autant plus.
Non, je ne pense pas qu'il faille chercher un consensus européen. Et les langues n'ont jamais empêché la réflexion approfondie en Europe. Simplement, l'affaiblissement considérable que l'Europe subit aujourd'hui dans le monde, le sentiment que les Européens éprouvent, encore une fois, autre limite que je n'ai pas mentionnée, mais de parvenir aux limites de leur puissance, va tout de même forcer, si j'ose dire, l'interrogation. Non pas que je veuille dire que la nécessité est mère de toute invention, mais nécessairement, nous ne pouvons pas nous endormir sur l'inertie qui malgré tout, bon an, mal an, nous portait vers le haut avec un produit national brut qui ne cessait d'augmenter, un confort qui ne cessait d'augmenter, une vie qui ne cessait de s'allonger. Il y a maintenant des limites que nous rencontrons et il y a des questions que nous ne pouvons pas éluder. Alors, est-ce que nous les poserons ces questions avec suffisamment de rigueur, de sérieux et de sincérité? Personne ne le sait. Nous ne serons pas des millions à les poser avec la rigueur nécessaire, mais est-ce qu'il y aura un nombre suffisant d'Européens pour les poser avec rigueur et sérieux? Et je dirais, dans ce cas-là, s'il y a des Européens pour les poser, la langue dans laquelle ils vont les poser a peu d'importance, n'est-ce pas? Les questions, si elles sont bien posées, se feront entendre, quelle que soit la langue dans laquelle elles seront formulées, même si elles sont formulées en estonien d'abord ou en néerlandais.
Vos travaux sur les écoles de pensée libérale ont permis à beaucoup d'entre nous de comprendre les ressorts de la motivation humaine dans ce qu'elle peut avoir de complexe et qui met l'individu au cœur de logique de la complexité. Ce sont des enjeux démocratiques fondamentaux dont nous voyons que simultanément les conditions de l'éducation contemporaine en ont largement éloigné les jeunes Européens. Comment voyez-vous que cette complexification et cet enrichissement de la vie individuelle puissent se perpétuer malgré la massification des consommations culturelles?
C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est une question extrêmement pertinente. Ce que je crois, si vous voulez, c'est que il y a eu. Maintenant, nous sommes accablés par les références, par les textes, même si nous ne les lisons pas. Mais nous sommes accablés par une histoire empilée et comme en quelque sorte, nous sommes dans l'histoire européenne pour d'une certaine façon. Comme l'archéologue devant un site qu'il creuse. Je crois que la renaissance d'un questionnement authentique et donc la renaissance d'une éducation authentique passera par de nouvelles expériences, si nous les faisons avec suffisamment d'authenticité. Et ces expériences seront d'abord des expériences politiques, Nous sommes devant une expérience béante, si j'ose dire, que nous ferons ou ne ferons pas, bien ou mal, qui est aujourd'hui d'éviter une dislocation ruineuse de l'Europe. La manière dont nous allons passer ou ne pas passer ce fossé, en quelque sorte, déterminera une expérience, et cette expérience nourrira, je pense, une éducation. Mais je crois que, effectivement, beaucoup de poussière empilée va être dispersée au vent, parce que elle ne nous protège plus. Les couches que nous avons traversées, tant bien que mal, ne nous protègent plus. Et de nouveau, nous sommes au bord, je dirais, d'une expérience directe, abrupte, de l'homme dans son existence politique et, je dirais, dans son salut politique.
C'est, je crois, la tâche des générations qui nous suivent.
Certainement.
Merci. Alors, nous allons revenir maintenant sur la conférence, l'élargissement de l'Europe. L'élargissement a-t-il fragilisé l'Europe ? Et justement, vous parlez de ce moment précis qui incombe à l'Europe, ce moment de charnière, de rupture. Vous le dites dans la conférence, le problème de la construction européenne et le problème qui se pose à la construction européenne aujourd'hui, ce n'est pas un problème très récent, c'est un problème qui remonte aux origines de cette construction. Vous établissez une différence entre, d'un côté, une fondation, qui serait celle du type des États-Unis, et un processus, celui qui a été choisi par les 6 membres fondateurs. Alors, le problème, ce serait qu'on n'a pas construit une communauté véritable. Et peut-être que les racines de cette crise, c'est qu'aujourd'hui, on a une Union européenne qui n'a d'union que le nom et qu'on est loin des États-Unis d'Europe.
Oui, bien sûr. Comment dire le résultat obtenu dépend nécessairement de la manière dont on veut l'obtenir. Bon, donc, on a construit l'Europe selon un processus, par addition en quelque sorte, d'éléments toujours nouveaux, d'éléments supplémentaires, un empilement institutionnel et une extension géographique. Donc, cette procédure donne ce qu'elle peut donner, c'est-à-dire, en effet, un empilement institutionnel et une extension géographique. Et au bout de cette démarche, il ne peut pas y avoir une unité politique qui n'aurait pu être produite, je dirais, qu'au commencement, ou du moins dans les premières étapes de la construction européenne. Alors, est-ce que cela aurait pu être fait dans les années 50 ? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas été fait. Mais si ça n'a pas été fait, si nous avons choisi la voie du processus, alors il ne faut pas, en quelque sorte, nous illusionner avec l'idée que la fondation pourrait être au bout du processus. Il n'y aura pas de saut qualitatif, n'est-ce pas ? Il n'y aura pas de saut dans l'Europe unie. Nous devons gérer une Union européenne qui ne trouvera pas d'unité politique substantielle à vue humaine.
Et justement, pourquoi ? Parce que vous êtes assez pessimiste, vous l'avez été dans la conférence. Vous dites les États européens se sont lancés dans cet élargissement, parfois effréné, en espérant qu'au bout du processus, il y aurait ce saut vers l'Europe. Et vous le dites, il est impossible. Pourquoi on ne peut pas imaginer et rêver qu'un jour ce saut dans l'Europe se produira ?
Mais comment pouvez-vous imaginer que des hommes qui vivent principalement dans leur vieille nation, n'est-ce pas, où les choix, les mœurs, la façon non seulement de se rapporter à la religion, mais aussi à l'économie, mais aussi à la famille, la façon de se marier, de se reproduire, de prier, cela, définit des groupes humains qui ont une consistance tellement plus prégnante, tellement plus intime et tellement plus forte que la machine européenne, aussi désirable celle-ci soit-elle par bien de ses aspects. Donc, ce que vous imaginez, c'est une sorte de miracle, n'est-ce pas, de miracle politique. Ce que vous imaginez, c'est que nous tous, nous allons nous endormir ce soir français, italien, allemands et que demain nous allons nous réveiller européens. C'est cela que vous imaginez. Non, ce n'est pas possible. Nous nous réveillerons français, italiens, allemands. Donc, je crois qu'il faut cesser de rêver à cette transmutation. Il faut cesser de rêver à cette transmutation. Il faut partir de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons être. Et donc, il faut plutôt nourrir, je dirais, une perspective commune sur les choses à faire. Par exemple, élaborer entre nations européennes une politique énergétique commune, plutôt que d'imaginer que demain, nous allons nous transformer en des êtres nouveaux, en un homme nouveau. Parce qu'au fond, n'est-ce pas, le rêve européen, Dieu merci, sous une forme beaucoup plus douce, il a quelque chose en commun avec l'utopie socialiste ou communiste. Il y a l'idée que, à un moment de l'histoire, eh bien, l'homme ancien va se transformer en un homme nouveau. L'homme égoïste du capitalisme va se transformer en l'homme généreux du socialisme. Eh bien, nous espérons de même que l'Européen particularisé par sa nation va se transformer en un Européen pur, en quelque sorte. Ce sont des rêves que il faudrait enfin renoncer à entretenir, pour renoncer à toute perspective européenne, mais pour faire une Europe possible. Et une Europe possible, à mon sens, mais bien sûr, c'est ouvert à la discussion, une Europe possible, c'est une Europe où les nations européennes, qui ne songent pas à se fondre dans une grande nation européenne, s'efforcent de faire des choses en commun. Et on parle des progrès de l'Europe, mais voyez que nous faisons de moins en moins de choses en commun. Voyez à quel point les politiques énergétiques divergent de plus en plus, n'est-ce pas ? Voyez comment les politiques extérieures, si elles ne divergent pas de plus en plus, elles ne convergent pas davantage. Voyez comment, depuis les entreprises, les grandes entreprises que furent Airbus et Ariane, il n'y a plus de grandes entreprises communes aux nations européennes. Donc, quand on me parle des progrès de l'Europe qui se font dans les crises, je dis, où sont les progrès de l'Europe depuis...
Ça, c'est Mario Tello qui défendait justement
non,
ça.
Mais c'est une idée très, très répandue. Je demande à voir ces progrès. Je vois bien l'extension. Mais il n'y a pas davantage de communautés. Et vous mentionniez Mario Tello. J'étais d'accord avec lui lorsqu'il disait que le problème de l'Europe, aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'élargissement, mais c'est le cœur de l'Europe. Il est vrai qu'en ce moment, d'une certaine façon, la France et l'Allemagne divergent plus qu'elles n'ont jamais divergé. Donc, voilà. Ne rêvons pas... d'une union substantielle que nous n'atteindrons pas, mais visons la collaboration la plus large possible.
Alors justement, nous allons revenir là-dessus. Dans ce saut de l'Europe impossible, on l'a bien compris, vous pointez du doigt donc, le rôle du centre et pas des périphéries, et là-dessus vous rejoignez Mario Tello dans la conférence. Vous pointez du doigt le couple franco-allemand ou la tripartition Allemagne-France-Italie. Le problème donc ne vient-il pas du fait qu'il s'agit d'un faux couple et qu'il y a une grande divergence, une fracture, avez-vous dit, et j'aimerais bien que vous repreniez la métaphore que vous avez déployée dans la conférence, la métaphore du lierre, qui était assez éclairante, si vous vous en souvenez. Non, nos auditeurs seront très intéressés, je crois.
C'était un petit peu une plaisanterie, mais je disais que le président Sarkozy faisait la politique du lierre, c'est-à-dire le lierre s'enroule autour du tronc de l'arbre, et de loin, n'est-ce pas, on ne voit que le tronc. Eh bien, il semble que, d'une certaine façon, le président de la République française s'enroule autour de la chancelière allemande pour que, de loin, on confonde la France et l'Allemagne. Comme vous savez, les marchés ne les confondent pas. Alors, les marchés, je ne m'en fais pas mes dieux, mais enfin, il ne faut pas les confondre. Donc, je crois en effet qu'aujourd'hui, l'Europe a un problème en son cœur. C'est vrai que le couple allemand est le cœur de l'Europe. Et c'est vrai que... la réconciliation franco-allemande fut le commencement de tout. Et que sans cela, il n'y aurait pas eu d'Europe, il n'y aurait pas eu d'entreprise européenne. Et donc, je pense qu'en effet, il faut s'efforcer de préserver au maximum ce mariage, en quelque sorte. En même temps, les conditions ont beaucoup changé. Nous étions deux pays ruinés, de façon différente. Mais enfin, qui entraient dans une sorte d'égalité. Tout facteur compensé, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, avec la réunification, avec, disons, les succès de l'économie allemande, avec l'efficacité aussi du gouvernement intérieur de l'Allemagne, n'est-ce pas, de la gestion par l'Allemagne de ses affaires, il est clair qu'aujourd'hui, l'Allemagne est vraiment la grande puissance européenne. Et donc, évidemment, au cœur de l'Europe, il y a une puissance principale. Et c'est évidemment un dispositif extraordinairement difficile à gérer parce que l'Allemagne a de bonnes raisons, si j'ose dire, non seulement de bonnes raisons, mais aussi les moyens de faire valoir ses intérêts quand ils sont conformes aux intérêts de l'ensemble européen, mais aussi éventuellement lorsqu'ils sont contraires aux intérêts de l'ensemble européen. Donc je crois qu'il y a là une très grande difficulté. Mais juste pour, si vous le permettez, pour revenir au début de notre conversation, voyez comment il est difficile de parler des progrès de l'Europe unie. Jamais, si j'ose dire, depuis très 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 longtemps, l'Allemagne avait été autant la nation allemande, une nation distincte. L'Allemagne est redevenue une grande nation au cœur de l'Europe, ce que d'une certaine façon elle avait cessé d'être depuis la guerre. Donc le développement récent a montré en effet certains progrès de la vie commune européenne, mais aussi des renaissances nationales, et en particulier quelque chose comme une reviviscence de la nation allemande.
Vous reprenez à votre compte finalement le constat que faisait Milan Kundera sur l'Europe. Il disait « c'est un maximum de diversité sur un minimum de territoire ». Lui, il en faisait une richesse culturelle. Vous, vous pointez du doigt la menace que cela pose pour justement construire ces projets d'union et dans plusieurs domaines différents.
Non, je pense que c'est une richesse. Je ne pense pas que c'est, en tant que tel, c'est une menace. Mais ça exclut un certain type de politique européenne. Mais ça n'exclut pas que les nations cherchent les voies d'une, ce que j'appelle des actions communes ou des entreprises communes. Mais en acceptant de rester des nations. Et c'est pourquoi je ne crois pas du tout qu'il y aura de gouvernement économique européen, parce qu'il n'y aura pas de gouvernement économique européen, parce qu'il faudrait qu'il y ait une vie politique européenne commune. L'économie est à ce point, mélangée à tous les aspects de la vie sociale et politique, qu'on ne peut pas imaginer un gouvernement économique européen sans gouvernement européen.
Merci Pierre Manon.
Merci à vous.